Avec vous ce matin, j'aimerais parler d'Hollywood, de cinéma, de blockbuster. Et si j'aimerais parler d'Hollywood, c'est justement parce que si Hollywood marche bien, si on a tellement de plaisir à regarder le cinéma américain, je le crois. C'est parce que le cinéma américain est un extraordinaire reflet de nos attentes, de notre vie, de notre façon de fonctionner. Le cinéma américain, je le crois, c'est voir quels sont nos sentiments profonds, nos désirs intimes, et donne parfois une réponse qui nous séduit. Et en parlant de cinéma, je le crois, nous parlons de l'homme et de notre monde. Et plus particulièrement, en termes de cinéma, je voudrais parler des scénarios et du personnage du héros, voire du super-héros. Toujours une figure d'admiration qui nous fascine. Dans le cinéma américain, vous savez, ce personnage sorti de nulle part qui va résoudre le problème, qui est habité par une force supérieure vers qui tous les regards se tournent, qui nous fascine, qui résout les problèmes, et on envie parfois cette façon de résoudre facilement les problèmes, et qui repart parfois à la fin. On connaît une fin heureuse. Et je crois que s'il nous séduit tellement, c'est parce que parfois, nous nous reconnaissons dans le héros. Je crois que les films les mieux écrits nous invitent à nous identifier au personnage principal, et toute l'admiration qui se porte sur le héros, finalement, est quelque chose qui pourrait nous porter, on s'imagine, à sa place. Ce matin, avec vous, je vous propose d'écrire un scénario pour Hollywood. Situation initiale. Nous sommes dans un petit village, appelons-le l'Issy-Bas. Le problème de ce village est double. Il a une mauvaise autorité qui le gère. Et il a des problèmes d'une mafia qui vient récolter son impôt, qui vient donner finalement sa persécution sur les braves habitants de notre petit village. C'est une problématique cliché, mais peut-être une bonne image du monde. Et cette solution, ce problème, demande une solution, demande un sauveur. Typiquement, on est dans le scénario « Les sept mercenaires ». Et c'est intéressant de noter que dans ce cas-là, dans Les Sept Mercenaires ou dans tous les films américains, le héros est quelqu'un d'extérieur qui arrive, qui vient, et quelqu'un de à part qui va venir donner la solution. La solution n'est pas en nous, nous la recevons. Dans Les Sept Mercenaires, justement, alors il n'y a pas un, mais sept héros qui ont tous une particularité. Il y a le chasseur de primes. Alors là, je parle de la version qui est sortie l'année dernière. Le chasseur de primes, le joueur, le hors-la-loi, le pisteur, le tireur d'élite, l'assassin, le guerrier. Chacun a une particularité qui dit, qui explique pourquoi il est le héros et pas un autre. Un qualificatif que les autres n'ont pas, quelque chose qui fait vraiment que c'est sa place, son rôle, qui va pouvoir nous sauver. Et là, je voudrais faire un petit jeu avec vous sur vos connaissances hollywoodiennes. Quel héros suis-je? Attention, premier personnage, est-ce que vous arrivez à le reconnaître? Mes parents sont morts lorsque j'étais enfant, tué par la pègre. J'ai transformé mon deuil en désir de justice, je me suis entraîné sans relâche et j'ai voué ma vie et ma fortune héritée pour combattre le crime anonymement. Mon nom civil est Bruce Wayne, mon surnom c'est Dark Knight, mais je suis plus connu sous le nom de Batman. Merci, madame. Batman, exactement. Batman, qu'est-ce qu'il a? Il a une souffrance initiale, la perte de ses parents. Il va suivre une initiation, ses 40 jours au désert, où il va vraiment apprendre à se battre. Il n'a rien de super-héros, mais il a appris lui-même, et surtout, il a aussi une fortune et toute une entreprise dans les nouvelles technologies qui lui permettent d'avoir des super-armes, des super-outils. Et grâce à son entraînement et à ses super-outils, il va combattre la pègre et répandre la justice. Attention, deuxième personnage. Mon père m'envoya sur Terre pour être sauvé de la destruction annoncée de ma planète d'origine. Probablement dernier rescapé des kryptoniques, je suis arrivé sur Terre étant bébé et je ne connais pas grand-chose de mes origines. Je suis éduqué par un couple de fermiers, Jonathan et Marthe Kent, à Smallville. Mais derrière mon apparence d'humain, j'ai une force surhumaine que je mets au service de l'idée de justice que mes parents adoptifs m'ont transmise. Je suis Superman, exactement. Alors cette fois-ci, Superman, lui, il a des origines supérieures, il vient d'une autre planète, il vient d'ailleurs, il a une force incroyable, et sa justice lui vient de ses parents adoptifs, qui lui apprennent ce qui est bon, ce qui est mal. Voici ses principes, voici sa force, et c'est comme ça qu'il devient le héros venu de l'extérieur pour sauver le monde. Attention, troisième cas, beaucoup plus dur, ce n'est plus un super-héros. Je suis policier. Ma femme est morte dans un accident. Depuis, j'ai perdu toute raison de vivre, mais je ne peux pas me tuer parce qu'elle aurait honte de moi. Je traque donc les criminels de Los Angeles en fonçant dans le tas, en espérant qu'un jour la mort me rattrapera toute seule et que je pourrai rejoindre ma femme. Cette attitude suicidaire, si elle est efficace, perturbe mon coéquipier qui, avec sa situation bien plus ordonnée de père de famille bienveillant, veille sur moi et couvre mes arrières. Nous sommes Rigg et Murtaugh, vous nous connaissez dans un film bien connu qui a eu 4 épisodes, L'Arme Fatale. Effectivement, L'Arme Fatale, 4 épisodes, qui est aussi sorti en série, propose cette idée d'un policier qui n'a plus rien à perdre et donc qui est une tête brûlée qui fonce dans le tas, qui va tout détruire. Mais ce policier ne pouvait pas y arriver s'il n'avait pas à ses côtés son ami bien plus installé, bien plus paternel, qui le couvre et bien plus raisonnable. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a à la base? Une non-peur de la mort due à son vécu. C'est là sa force. Et son idée de justice lui vient de son rôle de policier et de son amitié avec son coéquipier. Voici quelques figures classiques du cinéma d'Hollywood qui balisent bien, je le crois, le thème du héros, qui parlent de l'origine de sa force et le principe de sa justice. Alors dans notre village, ici-bas, on a un problème de mafia. On a besoin d'un héros. Et on va voir ce que la Bible, elle, nous propose comme héros. Dans le premier texte que nous avons entendu, Ésaïe 49, ça fait partie, toute une grande partie du livre d'Ésaïe, où quand on pioche des bouts, on s'aperçoit qu'il y a comme ce qu'on appelle le chant du serviteur, quelque chose qui finira par le fameux poème Ésaïe 53. Il est allé comme un agneau devant celui qui le tond à l'abattoir pour prendre en quelque sorte les péchés du monde, un passage qui a été lu et maintes fois interprété pour annoncer Jésus. Mais pour l'instant, nous sommes dans Ésaïe 49, un moment où quelqu'un parle en jeu et qui dit « Écoutez-moi ». Et qu'est-ce qu'il dit ? « Il a rendu ma bouche, il c'est Dieu, semblable à une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. » On a bien là le guerrier de Dieu fait d'épées et d'armes, de flèches et de carquois. Il dit plus tard, lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui, je suis glorifié aux yeux du Seigneur, car mon Dieu a été ma force. Alors là, on a son origine, il est façonné depuis le ventre de la mère. Il est envoyé par Dieu avec une mission divine et sa force lui vient de Dieu. Et plus tard, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, c'est Dieu qui parle, et pour ramener les restes d'Israël, j'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, sa force, il est déclaré lumière des nations. Voici tout ce qu'il nous faut pour un grand, un vrai héros. Pour notre petit village de l'ici-bas, ça semble pas mal comme formule. Et ce qu'on entend là, ça pourrait être tout simplement le cahier des charges d'un Messie. Un Messie attendu justement par Israël. Nous l'avons entendu dans le psaume 89. Israël, au moment où il va mal, où il a l'impression que son roi est tombé, où il a l'impression qu'Israël n'est plus, attend une rédemption qui vient du Seigneur. Israël attend un héros. On va voir comment ce héros pourrait nous débarrasser de nos problèmes de mafia et de mauvaise autorité de notre petit village. Et ça, on l'a avec le deuxième scénario. Alors, notre petit village d'ici-bas, on est un petit peu dans la situation du Nouveau Testament, hein, avec cette mafia qui vient prendre son emprise sur Israël. C'est bien sûr Rome qui envahit Israël. Et puis, cette mauvaise autorité, c'est peut-être les autorités religieuses qui ont bien du mal à donner une parole pertinente dans cette situation d'occupation et qui ont bien du mal à donner une solution. Alors, dans notre deuxième texte, Jésus rencontre un capitaine romain, un centurion. Et là, il y en a qui se disent probablement, il y a un petit piège. C'est que ce capitaine romain, eh ben, il n'est pas vraiment méchant. Il y a une sacrée entorse au principe même du scénario. D'un coup, le méchant, qui est la mafia, vient voir le héros, celui qui remplit le cahier des charges quand même, qu'on a entendu dans Ésaïe 49, qui est la lumière des nations, qui guérit, qui fait plein de choses, dont la parole est une épée. Il vient le voir et lui demande de sauver son serviteur. Alors il va falloir réécrire un petit peu le script. Effectivement, parmi les méchants, il y en a un qui n'est pas si méchant que ça et qui vient voir le héros. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit simplement, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui répond, « Moi, je viendrai le guérir. » Formule classique, problème exposé, « Je viendrai le guérir, le héros vient. » Mais le scénario se poursuit avec une réponse peut-être inattendue. Le méchant, la mafia, lui répond, « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « vient » et il vient, et à mon esclave fait ceci, et il le fait. » En gros, le mafieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi j'ordonne les choses et elles se réalisent, mais toi tu as autorité sur le monde spirituel, sur la vie, sur la santé. Tu n'as qu'une parole à dire et il sera guéri. Il reconnaît dans le héros venu quelqu'un d'extraordinaire. Le héros qu'il est, il a une totale confiance en lui. Notre mafieux est bien humble. Et que répond Jésus? Il est étonné. C'est intéressant, le texte, dans la traduction que nous avons lue, dit même « Jésus eut de l'admiration pour lui ». Ah, on a une piste là. Parce que l'admiration, normalement, on l'a envers le héros. On l'a pas envers la population et certainement pas envers le mafieux, mais envers le héros. Et d'un coup, Jésus a de l'admiration pour lui. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Après l'avoir entendu, Jésus, étonné, dites à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je ne trouvais une telle foi. » Et un peu plus tard, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et à ce moment même, le serviteur fut guéri. À travers ces paroles de Jésus, j'entends, « Cet homme est un héros. Il n'y a pas eu de foi pareille dans tout Israël, dans tout l'ici-bas, que ce mafieux qui vient réclamer au héros de sauver son serviteur. C'est sa foi qui a fait de lui un héros. » Et là, je pense qu'il est temps de faire une petite tirade contre certains héros de Hollywood. Parce que tous ces films, qui propose une figure de sauveur, une figure messianique qui vient de on ne sait où, qui est super fort et qui vient sauver, sont faits pour que tous les regards soient tournés vers lui. Il est la solution qu'on propose. Et finalement, tous les personnages autour de ce héros sont que des faire-valoir, des gens qui sont là pour admirer ce héros, pour montrer combien il est fort, combien il est beau, combien il est puissant. Et c'est ça qu'on aime dans les films américains. C'est un héros beau, fort, puissant, qui a une vraie solution et qui donne vraiment un bon coup de pied aux fesses des mafieux. Et à la fin d'un film, quand on sort du cinéma, on a toujours tendance à s'identifier à ce héros parce que ça nous fait du bien d'imaginer que tout le monde nous admire comme tout le monde a admiré ce héros. Mais la réalité, c'est qu'on est parfois bien ordinaire et qu'on fait plus partie des faire-valoir que du héros. On fait plus partie de ces petites gens qui n'ont pas de super-pouvoirs, qui sont parfois bien faibles et connaissent leurs propres limites, mais qui ne sont pas le héros. Sauf que ce n'est pas toujours le personnage qu'on aime mettre en avant. Ce n'est pas celui-là qui attire le monde dans les salles obscures. Et le retournement, on entend à travers ce passage où Jésus reconnaît dans ce mafieux, ce centurion, un véritable héros. Je crois qu'il se poursuit et qu'il se vit dans notre vie. Vous connaissez bien sûr cette phrase « Ta foi t'a sauvé ». Jésus n'arrête pas de la dire à chaque moment. Et là, à nouveau, il dit au centurion qu'il en soit fait selon ta foi. Oui, Jésus est la lumière du monde, et pourtant, juste avant, dans le sermon sur la montagne, il a déclaré « Vous êtes la lumière du monde ». Oui, Jésus est fils de Dieu, et pourtant, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Oui, Jésus guérit et chasse les démons, et pourtant, il a dit « Ceux qui viendront à ma suite feront tout cela et verront même bien plus de choses encore. » Oui, je crois que Jésus est ce héros qui ne s'affirme pas au détriment de nous, mais qui nous donne sa force à travers la foi. À travers la foi, nous sommes invités à être des imitateurs du Christ. À travers la foi, nous sommes chacune et chacun les héros ordinaires de l'Église, les héros extraordinaires de ce monde. Nous sommes appelés à vivre, à faire des choses extraordinaires. Et ça, je vous propose de l'entendre dans le troisième texte, dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, qui arrive à un moment un petit peu particulier, parce que Paul répond à cette dispute dans l'église de Corinthe, où les gens se disputent, ils disent « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Apollos », comme ils se réclament d'une paternité d'un certain apôtre. Et tout le message de Paul va être de dire « Mais non, vous n'êtes ni de moi, ni de Apollos, nous ne sommes pas des héros. Le héros, c'est le Christ, et vous appartenez au Christ. Vous êtes aussi ce héros. » Voici ces mots. « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. » Que personne donc ne mette sa fierté dans les hommes, peut-être une façon de dire, que personne ne mette sa fierté dans un héros, car tout vous appartient, soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. La Bible, derrière peut-être ses apparences de films hollywoodiens, de super-héros, doit peut-être être plus vue comme un feel-good movie, un film duquel, lorsqu'on ressort, on se sent bien, parce qu'il rappelle la force que nous avons en nous. Oui, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu, il a été un héros, mais il a fait des héros. Et si aujourd'hui Jésus n'est plus là en chair et en os, il est dans la communion, il est en esprit, il est dans l'écriture, eh bien c'est à nous d'être les héros de notre temps. Et dans notre petit village de l'ici-bas, la solution ne viendra pas d'un héros extraordinaire qui vient de l'extérieur. La solution viendra lorsque chaque villageoise et chaque villageois comprendra que dans sa foi, il y a une extraordinaire puissance. que dans sa foi, il a déjà tout reçu pour ordonner aux choses, pour vaincre le monde, pour vaincre la mafia, pour vaincre tout ce qui pourrait être une mauvaise autorité. Une autorité qui gérerait un temple et qui oublierait que le temple, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Qu'importe ce qui se passe à Jérusalem, à Berne, à Paris ou à New York, ce n'est pas là que se joue le destin du monde, c'est dans le sanctuaire de Dieu que nous sommes. L'histoire, ce ne sont pas des super-héros, des super-politiciens, des super-commerciaux qui vont révolutionner l'industrie, l'économie, donner plein d'emplois, sauver le monde. C'est la foi que nous avons lorsque nous réalisons que nous sommes toutes et tous habités par l'Esprit de Dieu, que nous sommes le sanctuaire de Dieu, que nous avons tous une foi qui a autorité sur ce monde, que nous sommes les héros ordinaires de cette Église, les héros extraordinaires de ce monde, dès que nous puisons à la bonne source. Amen.